Alors bonjour à toutes et tous et bienvenue à l'émission Regards croisés avec Arlette Farah
et Fulgence Blas.
Bonjour Fulgence.
Bonjour Arlette.
On parle un peu d'histoire avec toi. L'histoire
oui.
Avec un grand H, j'ai envie de
avec
dire.
Un grand H, et le nom commence par H d'ailleurs. Harriet Tubman, la grande abolitionniste, oui, ok, militante anti-esclavage.
Juste,
bien sûr, qui sera bientôt, ça dit que ce projet avait été mis au point mort par Trump, ouais. Ça avait été activé par Obama, Trump a mis ça au point mort. Et Biden vient de réactiver ça pour qu'elle soit sur les billets de $100 aux États-Unis, $20 aux États-Unis.
Tu vas nous en parler dans un instant.
Dans un instant, les deux. Et toi,
l'invité de la deuxième demi-heure, eh bien, on va recevoir Roromé Chantal, professeur de sciences politiques à l'université de Moncton, pour son livre « Comment la Chine conquiert le monde ».
Oh,
déjà, ça fait peur. Et alors, on part tout de suite en musique, Fulgence.
Oui,
avec... Tu nous parles d'Harriet.
Oui, oui. Soleil bleu, Alma Plage, le titre de la pièce. On vient d'écouter Soleil Bleu et Alma Plage.
Oui.
Voilà, tout de suite.
On parle d'Harriet.
Arlette, elle a hâte d'entendre parler de ça. On en parlait d'ailleurs. Alors, la grande militante anti-esclavagiste Harriet Tubman. Oui, c'est une grande dame. J'ai beaucoup de respect. Quand chaque fois que je vois sa photo, je dis waouh. À cette époque, née dans les années 1800, elle est née dans les années 1900. Elle est morte dans les années 1900. Oui. D'ailleurs, elle sera la première femme noire. Oui, tu voulais dire quelque chose.
Non, c'est ce que j'avais lu que tu m'envoyais son nom, la 1821. Waouh, j'ai dit ça fait tellement longtemps.
Oui. Elle est morte en 1900, quelque chose comme ça. Bon, je vais en parler rapidement parce que c'est quelque chose qui est sorti le lundi. Hier même, c'est hier que le nouveau président américain a réactivé ce dossier qui avait été mis à la poubelle par...
À la poubelle ou de côté?
Ah oui, il a mis... de côté, pour moi, c'est la poubelle. Enfin, le président qui est parti, qui vit maintenant en Floride, là. Je préfère ne pas dire son nom. Le président Trump. Alors, l'ex-président Trump, oui, qui a mis ce dossier... à la poubelle parce que c'est Barack qui avait initié ce programme, cette idée.
Il avait mis à l'honneur.
Oui, oui, oui. Et donc, quand lui est arrivé, de toute façon, tout ce que Barack a fait, c'était de n'importe quoi. Il fallait tout. Ce qu'il n'a pas réussi à faire, c'est d'annuler Obamacare. Il n'a pas pu annuler ça. Voilà. Alors, Biden, hier, lundi, il a dit tout de suite, je réactive ça. Il faut qu'elle soit sûre. Un billet de 20 dollars. Non, c'est intéressant parce que je me suis dit.
Et ça va être la première femme noire à être sur du billet de 20 dollars, c'est ça?
Oui.
Wow, extraordinaire, grand moment.
La première afro-américaine, il fallait ça. Mm-hmm. Donc il a relancé depuis hier ce projet emblématique de faire figurer le portrait de cette militante anti-esclavagiste sur les billets de 20 dollars, mais pas les billets de 2 dollars comme Trump le voulait, 2 dollars qui n'existent même plus, ces billets. Donc le porte-parole de la Maison-Blanche l'a annoncé hier à la conférence de presse.
Est-ce qu'elle a été, est-ce qu'elle a vécu elle-même l'esclavage?
Oui, je vais parler un peu de son histoire. Je vais parler un peu de son histoire. Le train clandestin qui faisait fuir les esclaves jusqu'au Canada, c'est elle qui était derrière ça.
D'accord.
C'est comme ça qu'elle est arrivée elle-même ici aussi au Canada, dans le Nord. Et puis, elle a profité de ses connaissances du chemin. Autant en temps retourner pour chercher les membres de sa famille, les amis, les esclaves libérés. Si je ne me trompe pas, elle a fait rentrer à peu près 300 à 400 esclaves ou bien un peu plus.
Wow.
C'est pourquoi il y a eu un film même en 2019, là, Underground Railway, c'est-à-dire le train clandestin. Voilà, ça parlait d'elle, Harriet Tubman. Donc, le secrétariat au Taser qui prend des mesures pour relancer les efforts en vue de mettre Harry sur les nouvelles coupures de 20 dollars. Donc, il est important que nos billets, notre argent, reflètent l'histoire de la diversité de notre pays et l'image d'Harriet Tubman ornant la nouvelle coupure de 20 dollars, les reflète de façon générale. Donc, comme tu l'as dit, elle sera la première femme noire. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire?
C'est un grand moment.
Oui. Elle était née en 1800. Sa date de naissance, là, Arlette, c'est pas clair. Il y a d'autres qui disent vers 1820, vers 1821,
22. Oui, mais enfin, près, quoi.
Voilà, à peu près. À l'époque, on disait pas né le. Oui. C'était né vers. C'était l'année, mais le jour exact, on savait pas.
D'accord.
Voilà, ça me fait penser aux anciennes colonies françaises. Les gens qui sont nés avant les indépendances étaient toujours nés vers.
D'accord.
Pas né le. Voilà. Donc, mais on sait qu'elle est morte en 1913.
Oui.
Oui, oui, oui. Elle a fui l'esclavage et fait passer des dizaines d'esclaves vers le nord des États-Unis et le Canada, avant et pendant la guerre de sécession, avant de participer à la lutte pour le droit de femmes, de vote des femmes. Elle était une grande militante.
Oui, mais c'était que... C'est quand, dans les années 1820, je n'y étais pas, mais je me doute que ça devait être beaucoup plus difficile d'être militante qu'à notre époque.
Donc, ah oui, moi non plus.
Ça devait demander un courage de folie. Une femme afro-américaine qui vient, enfin, ça doit être... c'est fou, quoi.
Et il fallait avoir un courage d'acier pour le faire. Hein.
Oui.
Oui. Et ça me fait penser à, quand tu t'es dit à cette époque, ça me fait penser à Olympe de Gouges. Quand on parle de féminisme, moi, je parle toujours d'elle parce que chaque fois qu'il y a la Journée internationale des femmes, je parle de cette femme, mon idée va sur elle. Il y a beaucoup de féministes de la nouvelle génération qui ne savent même pas qui est Olympe de Gouges. C'est la française. Elle a été guillotinée en 1700, quelque chose comme ça. C'est elle qui avait écrit la Droit et liberté des femmes. Oui.
Oui, mais c'est, il y a eu plein de choses qui ont été faites. En fait, on n'est pas,
pas
les plus récentes.
Donc, voilà, c'est des femmes qui étaient en avant sur leur époque. Donc, tu vois, effectivement, cette grande dame-là qui devait remplacer dès 2020 le président populiste. Ça devait être fait en 2020. Andrew Jackson, lui, il était né en 1767 et mort en 1845. C'est lui qui est jusqu'à présent sur les billets de $20 là-bas aux États-Unis. Donc c'est sa photo qui va prendre la place de la photo de Andrew Jackson. Un personnage très controversé d'ailleurs, qui était admiré par Donald Trump. Lui, c'est ce genre de personnage comme ça qu'il aime d'ailleurs. Voilà. Mais
peut-être qu'on pourra récupérer. Non, j'allais dire une bêtise.
Non, tu dis non, pas mais
j'avais envie de dire, bah, peut-être qu'on va récupérer les billets de $20 des partisans de Trump. Ils voudront plus s'en servir, donc on les prendra.
C'est pas une bêtise.
Et on les dépensera. À leur santé, tiens.
C'est pas une bêtise, Arlette.
À ta santé.
Alors, bon, donc, l'ancien secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin, avait annoncé en 2019 que le rapport du projet... au moins jusqu'en 2028. Tu vois, ils ont reporté, ils n'ont pas jeté. Ils vont dire en 2020, ils croyaient qu'il allait avoir un deuxième mandat, ce mec, de toutes les façons. Donc, ça a été fait. Ça a été fait. Andrew Jackson, pour ceux qui ne savent pas qui il était, qui occupa la Maison Blanche de 1829 à 1837, oui, était considéré comme le premier président populiste des États-Unis. Celui-là.
D'accord.
Ouais. Par Donald Trump, qui avait d'ailleurs installé son portrait dans le bureau ovale. C'est comme ça qu'on devient populiste aussi. Quand on adore quelqu'un qui est déjà populiste.
Je pensais à cette femme et je me disais que oui, elle a fait plein de choses. Et heureusement pour nous, son nom est resté dans l'histoire, mais il y a dû en avoir plein d'autres aussi qui ont travaillé pour ça et dont les noms sont tombés dans l'oubli.
Sont tombés dans l'oubli. Aussi. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui ont. Elle n'a pas été la seule qui a fait passer les Noirs du Sud vers le Nord.
Mais
voilà.
Je voyais que son souvenir est honoré aux États-Unis. Je me dis tant mieux, très bien.
Ouais.
Bravo pour ça, mais c'est pas si facile puisque c'est Barack Obama qui a fait la création, non ?
Qui a lancé le projet en 2016.
On verra. Non, mais la création de son jour, Harriet Tubman.
Et
en 90, alors je sais pas qui c'était qui était là, mais enfin bref, elle a été reconnue et tant mieux qu'elle soit reconnue et qu'elle soit connue au nom de ceux qui les connaissaient pas.
Oui. Oui. Non, bon, c'est
Merci
moi.
De nous
je suis l'un de ces admirateurs d'ailleurs. On va en musique, arrête.
Allez, avec
je
qui
Je sais que tu n'attends que patiemment que ça. Avec Guy.
Ah non, je n'attends pas que ça.
Voilà, d'accord. Non, pour l'instant, après la chronique, après le bavardage, je veux dire. Guillaume Arsenault.
Oui.
Et le titre, c'est Courir.
Alors.
Oui. Ouais,
il court et il arrive jusqu'à nous.
Ouais, il arrive jusqu'à nous. Non, avant que la musique ne vienne, on peut continuer à parler.
Voilà, il est arrivé.
Il a
couru jusque là.
Je cours et mon corps est un satellite. Par gravité, il ne fait que chuter. La courbe terrestre le garde en orbite. Je tombe vers l'horizon sans perdre pied. J'ai des visions que me transmettent des drones. Des plans séquences me survolent en plongée. Dans ces images de la flore et la faune, je vois en relief les humeurs de mes pensées. Je libère ma tête en bougeant mes pieds. Dans cette introspection panoramique, je suis à la dérive de mes mouvements. Les longues et lentes distances sont hypnotiques. Le parcours est sans fin ni commencement. Mon œil est un chemin qui mène l'image jusqu'au miroir d'un kaléidoscope. En fuite par la fenêtre du paysage, j'accède à des effets psychotropes. Dis-moi qui es-tu et à chaque foulée.
Arsenault, courir. Oui, on a couru ensemble. Bon, on va parler un peu de développement durable, Arlette.
D'accord.
La Norvège qui est le premier pays maintenant au monde à avoir dépassé les 50% de voitures électriques vendues en 2020.
J'ai vu ça, oui.
Oui. J'aimerais bien qu'on va attendre ce pourcentage-là ici un jour au Québec. 50% de voitures électriques vendues.
Oui. On sait que les voitures électriques n'ont pas que des bienfaits, hein.
Oui.
Paraît-il. Donc,
Oui, c'est vers ça, on s'en va tous, hein. Donc, la Norvège, comme je le dis, selon les infos que j'ai reçues, l'AFP et Sciences Avenir qui le disent d'ailleurs, les scientifiques, ils ont fait leurs enquêtes, ils ont trouvé que c'est ce pays-là qui est en tête actuellement au monde. Il n'y a pas un autre pays qui dépasse 50% de voitures électriques vendues. C'est la Norvège. Je me suis dit, ils n'arrêteront pas de nous surprendre, les Scandinaves.
Bah, ils sont en avance de beaucoup de choses, hein, des fois, mais après.
Oui, oui. Donc, elle est devenue en 2020 le premier pays au monde où les voitures électriques ont représenté plus de 50% des nouvelles immatriculations. Voilà. Annuelles. Donc, à travers ces chiffres obtenus d'un organisme spécialisé publié mardi là-bas, passé, selon le Conseil d'information sur le trafic routier, les véhicules électriques ont eu une part de marché de 54,3% en 2020 contre 42,4% en 2019. Et une augmentation d'achat de voitures électriques. C'est un nouveau.
Voilà, je ne sais pas, je ne saurais pas te répondre là-dessus, étant donné que il me semblait avoir vu passer quelque chose qui disait que les voitures électriques n'étaient pas.
Et il y aura toujours.
Il y avait des choses très importantes qui étaient contre nature, pas contre nature, mais enfin qui abîmaient la nature et avec lesquelles on construisait les voitures électriques. Donc je ne sais plus, je ne saurais pas te dire.
Non, j'ai aucun avis
là-dessus. Très bien.
Non, il faut qu'on sache qu'on le veuille ou pas, c'est vers là qu'on s'en va quand même. Parce que si on veut lutter un peu contre tout ce qu'on dit tout le temps ici, d'ailleurs, à l'émission ou bien ailleurs. À un moment donné, l'essence et autres, là, il faut que ça, tout douce, ça peut pas disparaître comme ça du jour au lendemain. On sait que les voitures électriques vont prendre la grande part du marché. Mais s'il y a des pays comme ça qui font des efforts d'une manière ou d'une autre, jusqu'à ce qu'on trouve quelque chose d'autre, je pense bien que les voitures électriques sont la meilleure solution actuellement, quoi. Donc, voilà, quels sont les quatre modèles qui sont en tête là-bas, dans ce pays? Les quatre modèles neufs les plus vendus dans ce pays nordique, là, c'est Tesla, Model 3, Volkswagen, je ne fais pas de pub, hein, c'est les voitures qui sortent de l'usine déjà avec le moteur électrique.
D'accord.
Voilà, c'est pourquoi je ne suis pas en train de faire de la promotion, là, ne me tapez pas là-dessus. Et la cinquième, c'est la Golf de Volkswagen, qui est aussi en avant, sort avec les moteurs tout neufs de l'usine. Donc ça permet, c'est ce qui fait que les Norvégiens se ruent là-dessus. Et ils ont des versions rechargeable avec des statistiques qui ne distinguent pas des types de motorisation. Et puis d'ailleurs, les ventes de voitures électriques pour décembre ont battu un record mensuel. Décembre 2020, c'est 66,7% de voitures électriques vendues en décembre 2020 en Norvège. C'est beaucoup.
Oui,
hein,
oui, bah peut-être qu'en Norvège aussi, ils ont tous les emplacements qu'il faut pour recharger les bornes, voitures, ce qui n'est pas notre cas ici. Hein.
Les bornes électriques sont placées partout, on trouve dans beaucoup de coins. On se dit, les gens ont sauté sur l'occasion. Je pense bien que les acheteurs aussi de ce genre de voitures ont souvent des subventions de la part des gouvernements. Une manière d'encourager tout doucement de délaisser les voitures à essence, quoi.
Oui.
Donc, l'ambition que toutes ces voitures neuves soient zéro émission à compter de 2025, dans 4 ans.
D'accord.
Dans tout le pays.
Et puis, réguler la vitesse aussi là-dessus, puisque c'est quand même une batterie, quoi. Donc,
Oui.
Oui, parce faire que attention.
Tu ne peux pas faire 2 jours ou bien une semaine sans recharger ta batterie, ça c'est clair.
Oui. Mais je sais pas du tout comment fonctionne. J'ai jamais conduit une de ces voitures.
C'est comme si quand tu vas mettre du carburant à la station tout le temps, donc ils font tout le temps, il faut aussi tout le temps recharger, quoi. C'est ça.
Oui,
c'est,
mais on peut pas acheter que ça vienne ici au Canada. Je veux dire, il faut aussi instaurer tous les endroits où on pourra recharger les batteries, parce qu'on peut pas commencer à s'acheter des voitures électriques alors qu'il y a pas assez de.
Il y en a pas mal dans les rues de Montréal quand même. Oui. Il y en a pas mal. Quelquefois, tu veux parquer et puis tu vois le comment dirais-je, l'emplacement électrique là, pour charger les voitures électriques. Là, je peux pas. Tu fais le tour et puis tu continues ton...
Bah, s'il commence à y en avoir, tant mieux.
Oui, il y en a pas mal quand même. Tu verras bien quand tu vas te doter d'une voiture, quand tu veux parquer, tu vas tomber sur ces bornes électriques-là. Donc, contrairement aux voitures diesel ou à essence très lourdement taxées, les voitures propres, ils sont notamment exemptes de quasi toute taxe. C'est ça. C'est une des raisons pour laquelle les gens se ruent vers les voitures électriques. Exemptées de toute taxe.
Ah oui.
Ce qui les rend...
Il faut bien attirer les...
les acheteurs.
Il faut bien attirer les consommateurs.
Les consommateurs. Ouais. Donc, ça les rend beaucoup plus compétitives à l'achat. Et donc, la Norvège, où l'électricité est quasi intégralement d'origine hydraulique, oui.
D'accord.
Ouais, nourrit l'ambition que toutes ces voitures neuves soient zéro émission, comme je le dis, à compter de 2025. Mais c'est, quand j'ai lu ça...
2025, c'est demain, hein.
Oh, oui.
Enfin, c'est demain. C'est très très bientôt.
Oui, c'est très bientôt dans 4 ans. C'est vrai? Oui. C'est vrai, mais il faut se dire une chose. C'est pas une population de 60 millions d'habitants, ni 100 millions d'habitants non plus. Hein. Donc, on va essayer de... À ma manière, moi, si je dois changer de voiture demain, je pense bien que je vais aller vers là. Ou bien, comment on appelle ça? Hybride. Oui. Les deux. En commençant par l'hybride, ensuite aller définitivement à une voiture électrique.
Oui. Parce que c'est toujours déjà mieux que ce qu'on a. Donc, en attendant qu'ils aient trouvé des solutions encore beaucoup plus prometteuses pour l'environnement.
Oui. Non, je comprends ce que tu dis concernant la qualité même de l'électricité qui. J'ai déjà lu des articles sur ça et je ne veux pas. Bon, là, je me suis dit, qu'est-ce qu'on a de mieux pour l'instant pour remplacer l'essence et le diesel? C'est ça.
Oui,
c'est la solution la plus propice, la plus propre actuellement qui est à notre portée en tant que citoyen du monde.
Oui.
Donc, il faut commencer par là. S'il y a d'autres solutions qui se présentent à nous demain, pourquoi pas on va glisser de l'électricité à cette solution
voilà.
qui ne cause aucune...
toxicité. Oh là là, je vais y arriver à la terre.
Tu y es arrivé quand même. Voilà, en gros, c'est ça comme ça. Je voulais informer nos... Voilà.
Oh ben très auditeurs. Bien, parfait.
C'est pour dire que nous autres, là, nous qui sommes, moi je suis véhiculé, donc je pense au père, ça aussi, ça est dans mes plans. On va en musique ?
Bien sûr.
Avec un breton, tu me l'as appris que c'est un breton, Loïc Morin. Il nous parle
Il s'appelle Loïg.
Loïg.
Je sais que ça paraît un peu surprenant ce prénom, mais c'est son vrai prénom. Loïg, avec un G.
C'est un prénom breton, ça.
Mais c'est, oui, normalement on dit Loïc, nous en Bretagne, mais il nous avait dit que. Quand on l'avait rencontré, il nous avait dit que oui, c'était un prénom breton
Loïg.
Et que ça s'appelait
c'est
Loïg
pas Loïc, c'est Loïg avec G pas au lieu
voilà.
de C. Loïg Morin, il nous parle des fantômes.
Ah oui.
J'écris pour rien, je ne parle de rien.
Alors restez avec nous parce que dans la demi-heure suivante, eh bien, on va apprendre comment la Chine conquiert le monde à travers le livre de Roro Méchantal, qui est professeur de sciences politiques à l'université de Moncton. Alors à tout de suite.
Écoutez Regards croisés avec Fulgence Blas et Arlette Farah.
De revoir cet endroit, chaque année en l'état, le plongeoir tout là-bas, et le sable de Saint-Ca, les gouttes d'eau et les carreaux. Cette image ne change pas.
Alors on vient d'entendre Ours qui nous chantait la cinquième saison. Roro Méchantal, bonjour.
Bonjour et bienvenue. Roro Méchantal.
Alors vous êtes professeur de sciences politiques à l'école des hautes études publiques de l'université de Moncton et en plus d'écrire régulièrement une chronique sur l'actualité internationale, vous venez nous présenter votre livre « Comment la Chine conquiert le monde ». Alors je vous dirai après quel effet moi ça me fait la Chine. Parce que j'ai entamé votre livre, mais j'ai pas eu le temps de le terminer, de lire jusqu'au bout. Donc vous êtes natif d'Haïti, vous étiez journaliste. Donc pourquoi cet intérêt pour la Chine et quelles ont été vos influences pour écrire ce livre ?
Mais tout d'abord, merci de l'invitation. Je pense la question de la Chine, c'est peut-être la plus importante question présentement en relation internationale, et cela répond en partie partie à votre question. En 2007, fin 2007, je suis arrivé au Canada pour des études supérieures à l'Université de Montréal. Je participais à une école d'été du CERIOM que ce centre de recherche organise. Cette école d'été portait sur la Chine. J'avais rencontré à l'époque d'éminents sinologues, parmi lesquels Jean-Philippe Béja en français, mais également Anne Cheng, qui vit en France, qui enseigne au Collège de France, qui est une grande historienne de la Chine. Et la question était d'importance dans la mesure où on évoque la possibilité d'une nouvelle catastrophe mondiale, puisque, comme on le sait, à chaque fois qu'une grande puissance émerge dans le système international, remet en question la position hégémonique de la puissance établie, il y a historiquement possibilité d'une guerre cataclysmique. Et donc, pour toutes ces raisons, mais aussi parce que la Chine, c'est l'autre pôle de la civilisation, un pays qui reste dans l'ensemble inconnu du monde occidental. Il y avait donc en moi cette curiosité de comprendre davantage la question chinoise.
Parce que vous avez quand même été loin sur la question chinoise. J'ai lu que vous aviez même étudié le mandarin.
Oui, parce que je pense que... Oui, parce que...
C'est quand même aller loin là-dedans.
Mais c'est fascinant, ah oui. C'est inaccessible, mais en même temps... J'ai compris justement en discutant avec les gens qui se sont intéressés de près à la Chine que c'était une des clés pour comprendre davantage la culture de la Chine, pour comprendre la façon dont pensent les Chinois, pour comprendre également leur comportement à l'interne et également sur la scène internationale. Et puis l'autre clé essentielle, c'est évidemment l'histoire de la Chine dans laquelle je me suis depuis plongé et jusqu'à maintenant. J'ai trouvé ça fascinant, en effet.
Alors, moi, en tant qu'Européenne, j'ai la forme... La Chine, je ne la connais pas, donc je la prendrai à travers votre livre aussi. C'est plutôt fascination-répulsion.
Oui, mais vous avez raison, ça a toujours été... Le cas et l'Europe que vous citez, y compris les grands intellectuels français, ça vaut pour eux aussi, qui disaient parfois, qui parlaient de la Chine avec beaucoup d'admiration, mais c'était souvent une connaissance assez superficielle.
À limiter, oui.
Oui, limitée, mais aussi répulsion, parce que c'est quand même... un pays à la culture différente, à la façon de faire différente. Et en général, tout ce qu'on ne connaît pas inspire une certaine crainte. C'est pourquoi aujourd'hui, il y aurait, à mon avis, besoin d'essayer de comprendre cette Chine sans préjugés et sans nécessairement approuver ou être d'accord avec tout ce qu'elle fait, tout ce que font ses dirigeants, mais de l'aborder quand même avec un esprit d'ouverture. Je pense qu'il y a une meilleure chance donc que ça se passe mieux. À défaut donc qu'il y ait consensus, tout au moins, on peut mieux agir vis-à-vis de cette Chine qui monte.
C'est quand même extraordinaire que dans cette année 2020, ils aient été le seul pays à être en croissance et à ne pas avoir souffert de la pandémie, enfin en tout cas pour les affaires, je veux dire, pour la...
Oui, vous avez tout à fait raison de le mentionner. Et moi-même, j'en avais déjà l'intuition, peut-être que je ne devrais même pas parler d'intuition, puisque je me suis inspiré de rapports très récents produits par des institutions occidentales comme le FMI ou encore la Banque mondiale, qui avaient anticipé que la Chine serait le pays qui s'en sortirait mieux, même si, on le sait, l'épidémie du coronavirus a émergé en Chine et que ce pays a été donc parmi les premiers à en être frappé. Ceci étant dit, vous savez aussi que la Chine a une gouvernance qui facilite énormément son élite dirigeante au sens où il ne s'agit pas d'une démocratie où les délibérations seraient interminables. Donc, dès que les dirigeants appréhendent une question et qu'ils ont la possibilité de s'asseoir, ils peuvent donc agir très, très rapidement sans être handicapés par les dysfonctionnements caractéristiques des démocraties occidentales. Et je pense que c'est l'une des raisons qui explique donc cette performance économique. Mais aussi, vous savez très, très bien que après avoir tenté de cacher les nouvelles sur l'existence du virus en Chine, une fois que le gouvernement central s'est impliqué dans la question, ils ont envisagé et mis en œuvre des mesures draconiennes qui auraient pu inspirer certaines puissances et certains pays en Occident, mais qui ne l'ont pas fait. Et donc, même si aujourd'hui, il y a de nouvelles explosions de cas de coronavirus, mais dans l'ensemble, la réponse des autorités chinoises a été exemplaire et ça a largement contribué à une reprise plus tôt que normalement dans d'autres pays aux activités économiques. Tout ça a contribué à cette performance à laquelle vous faites référence.
Alors, on va faire une petite pause musicale, mais avant, vous allez réfléchir à ma question pour la prochaine fois, c'est-à-dire les Chinois investissent partout dans le monde, l'Afrique, l'Amérique du Sud, l'Asie. Alors, on en parle tout de suite après ça, d'accord ?
Même en Europe.
Avec plaisir.
On écoute Flore Laurentienne qui nous chante « Route ». Alors, Roro et Chantal, maintenant, vous avez eu le temps de réfléchir un petit peu et répondez-moi donc à ma question. La Chine investit dans le monde.
Oui. La Chine investit dans le monde, je pense que ça répond à plusieurs impératifs. Sur le plan intérieur, il y a eu une certaine saturation pour les Chinois qui ont fini de construire l'essentiel des choses. On parle de la courbe de Kuznets pour dire qu'à ce niveau-là, l'économie chinoise va décliner. Et ils avaient besoin de trouver des débouchés pour les entreprises chinoises qui sont multiples. Mais aussi, la Chine investit en réponse à des demandes. En Afrique, par exemple, les pays avaient des demandes en matière de construction d'infrastructures, d'investissement dans le secteur agricole. Or, l'essentiel de l'aide occidentale, non seulement était assorti de conditionnalités qui étaient parfois difficiles à réunir, oui, mais souvent, c'était également des investissements dirigés vers le relèvement des capacités des femmes ou encore dans le domaine de la santé, la promotion des droits de l'homme. Ce sont des domaines essentiels, mais dans l'ensemble, qui ne contribuent pas véritablement à la relance des industries dont ces dirigeants ont besoin au moment d'aller aux élections. Ça vaut pour l'Afrique, ça vaut pour l'Amérique latine, et donc ces pays se sont tournés en grand nombre vers la Chine. Mais, vous l'avez mentionné, ces investissements concernent également de plus en plus de pays démocratiques et industrialisés. Par exemple, la Chine a lancé depuis l'année 2013 environ l'initiative de nouvelles routes de la soie. Écoutez bien, lorsque les analystes en Occident même ont fait les calculs, ils ont trouvé que les investissements qui sont prévus dans le cadre de ce projet gigantesque dépassent de plus de 10 fois les investissements consentis par les Américains dans le cadre du plan Marshall qui visait la reconstruction de l'Europe dévastée après la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, aujourd'hui, l'Italie, depuis le mois de mars de l'année passée, depuis le mois de mai environ, je ne me rappelle pas très bien, est devenue le premier pays du G7, donc des 7 pays parmi les plus industrialisés de la planète, à avoir signé un mémorandum avec la Chine. Il y a une initiative en Europe centrale similaire, le groupe 17+1, qui réunit donc 17 pays en Europe centrale, qui donc sont impliqués dans ce projet avec la Grèce. Le Royaume-Uni, c'est le plus grand allié américain en Occident, mais a été parmi les premiers à devenir membre de la banque BAII, Banque chinoise d'investissement en infrastructure. Alors, je m'arrête à ces quelques exemples. La liste pourrait être très longue. En Amérique latine, les plus grands pays sont... La Chine est devenue donc le pays qui finance le plus donc ses alliés américains en Occident. Autrement dit, c'est vraiment une débauche d'initiatives et d'investissements de la Chine. Et contrairement à ce que les gens ont l'air de croire en Occident, à mon avis, au terme de mes recherches, ce n'est pas tant la puissance militaire chinoise qui menace l'hégémonie occidentale, c'est davantage l'influence chinoise qui découle donc de l'ensemble de ces réseaux que la Chine est en train de tisser, puisque, pour dire un dernier mot là-dessus, ces pays ont une créance pernicieuse face à la Chine, parce que c'est la Chine qui finance l'essentiel dans les principales régions du monde.
Bien sûr. Alors, mon collègue Fulgence Blas a des questions à vous poser, alors je vous laisse avec lui.
Oui, Romain, rebonjour. D'ailleurs, en parlant de route de la soie, j'ai vu dernièrement des vidéos sur YouTube qui montraient les différentes voies ferroviaires qui reliaient la Chine à l'Europe. Comment est-ce que les Européens ont pu laisser faire la Chine ces trajets ferroviaires-là, comme ça, reliant la Chine au...
C'est la grande question. Vous avez posé la grande question parce qu'il y a des spécialistes qui ont démontré clairement, et ceci des spécialistes américains, je pourrais citer Brzezinski, que celui qui, le pays qui maîtrisait, qui contrôlait l'Eurasie, dominait le monde. Eh bien, la Chine répond justement à un vide dans lequel elle s'est engouffrée, vide laissé donc par les puissances occidentales, dans la mesure où ce à quoi nous avons assisté au cours des dernières années, c'est un repli des Américains sur eux-mêmes. Et du côté de l'Europe, elle est en proie à des crises majeures, des crises internes, et donc pas d'initiative, en tout cas presque pas, du côté des Africains, rien de très grandiose, et les Chinois qui ont des ambitions grandioses, qui veulent redevenir le centre du monde, voilà, ils ont profité largement du contexte international, de la mondialisation, pour, en étant une puissance émergente en développement, ils ne financent pas nécessairement grand-chose, ils n'ont pas de base militaire à travers le monde, et donc ils ont pu amasser des fortunes énormes, et aujourd'hui, ils sont en train donc d'investir dans des initiatives qui leur permettent de se faire des alliés, et effectivement, il devrait y avoir l'Europe, une réponse. L'Europe commence à y réfléchir depuis la crise sanitaire. Les Américains font de l'effort, mais la vérité est que les Chinois ont dans ce domaine-là une avance considérable.
D'accord. Eh bien, écoutez, c'est très passionnant, mais on arrive dans les deux dernières minutes de l'émission, de l'entrevue. Je savais que vous alliez nous passionner. J'avais envie de vous dire, est-ce que l'on doit craindre le pouvoir de la Chine? Et puis, je vous ai entendu dire que vous ne pensiez pas que c'était dans la culture des Chinois d'envahir les autres pays.
Je pense que vous avez vraiment bien entendu. Écoutez, la Chine fait des mouvements en mer méridionale de Chine où elle construit des installations militaires, mais selon les analyses des experts, ce sont des installations à des fins défensives. Évidemment, il pourrait y avoir un conflit. Par exemple, dans le cas de Taïwan, si la Chine s'avisait d'envahir Taïwan d'ici 2049, qui va marquer cette année-là le centenaire de la fondation de la République de Chine, probablement oui. Les États-Unis seraient entraînés dans ce conflit. Plusieurs fois, on n'était pas très très loin d'enregistrer une guerre entre la Chine et le Japon. Il y a des risques énormes en ce sens-là. Cela dit, au-delà de ces risques, de ces erreurs de calcul stratégique qui pourraient entraîner le monde dans une nouvelle guerre, il m'est difficile d'imaginer la Chine prendre de l'initiative pour envahir un pays, y compris ses voisins. Je vais vous dire une dernière chose là-dessus très, très rapidement. Les États-Unis ont eu de la chance d'être entourés par deux pays extrêmement pacifiques, le Canada et les États-Unis. Il n'en est pas ainsi de la Chine, qui est entourée de pays extrêmement nationalistes, le Japon, l'Inde et la Corée du Sud, ou encore la Corée du Nord. Or, au cours des 30 dernières années, la Chine est le seul pays membre des cinq pays membres du Conseil de sécurité avec droit de veto, à n'avoir tiré aucun coup de feu à l'intérieur de ses frontières au cours des 30 dernières années, depuis donc sa dernière guerre navale contre le Vietnam. Je pense que ça en dit long sur la retenue dont fait montre les dirigeants chinois. Ceci étant dit, personnellement, je ne suis pas en contact avec les dirigeants chinois, existe, mais quand donc je me réfère à son évolution au plan historique, je pense que les analystes s'entendent pour dire qu'il n'est pas dans la tradition de la Chine, donc d'envahir des pays voisins ou encore des pays étrangers.
Eh bien, merci beaucoup. Vous avez été passionnant, c'était un plaisir de vous recevoir, Romé.
Merci, Romé.
C'est gentil, merci beaucoup, merci de l'invitation.
À une prochaine fois, au revoir.
À une prochaine fois, au revoir.
Voilà, donc nous arrivons à la fin de cette émission et encore une fois, merci Romé Chantal, ça a été très intéressant d'entendre quelqu'un en sciences politiques. Moi je ne suis pas très très férue, je suis un peu nulle en sciences politiques, mais en tout cas ça m'intéresse toujours d'apprendre de personnes comme ça. Donc c'est un livre, donc je le répète, son livre c'est « Comment la Chine conquiert le monde ». Et ça a l'air d'être extrêmement passionnant. Le peu que j'ai commencé à en lire me paraît extrêmement passionnant.
Pour les amoureux de la géopolitique, ça doit être un livre intéressant.
Oui.
Voilà, ça parle de ça. Oh, donc, oui, c'est ça, gros. Je vais me le procurer d'ailleurs, comme je te disais. Merci, Romé.
C'est toujours passionnant d'apprendre. C'est quand tu es avec des personnes qui peuvent... t'amener un petit peu plus loin encore de ce que tu as appris. C'est toujours passionnant ça. Donc, voilà.
On dit merci à nos auditeurs.
Eh bien, merci d'abord à toi avec tout ce que tu nous as appris déjà aussi.
Aujourd'hui,
en première partie, eh bien oui. Moi, je la connaissais pas, donc j'ai fait connaissance avec Ariette. Je me rappelle son prénom parce que j'aime bien. Merci beaucoup Maurice Bonduc pour les
merci
musiques.
Merci Maurice à toi et puis Ariette avec un grand H d'ailleurs.
Voilà ça, il faut le merci dire. À vous toutes et tous de nous avoir écoutés.
Et toi, on se voit
donc,
demain.
Donc il faut dire que c'était comment c'est son nom de famille, Ariette Tubman, T-U-B-M-A-N, voilà.
Oh, oui. C'est ça. Il appelle son nom même de... oui, c'est Tubman.
À demain.
Ça sonne un peu comme Ariette.
Et quand ça sera fait, j'achèterai un billet de $20 américains. Au revoir, à demain.
Ah bon, ouais.